C'est ce matin avec un de ces personnages de la Bible en errance et en exil, en voyage sur les routes, que je vous invite à partir. C'est une femme. Elle est étrangère, c'est-à-dire non juive. C'est une migrante. Vous avez deviné ? C'est Ruth. Ruth, appelée la Moabite, c'est-à-dire celle qui habite le pays de Moab. Le livre de Ruth se trouve dans le Premier Testament. C'est un des livres les plus courts de notre Bible. Petit livre, mais qui raconte ô combien de grandes choses pour notre foi. L'histoire se passe au XIe siècle avant Jésus-Christ, au temps appelé des juges, que l'on peut très grossièrement situer entre Abraham et David. Mais cette histoire a été mise par écrit beaucoup plus tard. Notre livre a tout de même 85 versets, et nous ne le lirons pas complètement ce matin. Mais nous allons en découvrir différents extraits ensemble au fil de ce message. Et je vous invite, en rentrant chez vous, à reprendre le livre en entier. Alors écoutons le début de l'histoire. C'est Dominique et Marie qui vont nous guider dans ces temps de lecture biblique. Nous entendons des extraits du premier chapitre de Ruth.
Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses deux fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Malon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à Ruth : Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit : Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem.
Voilà donc une histoire qui s'annonce bien mal. Famine, exil, mort du mari d'abord, puis un répit de 10 ans, avant la mort des deux fils. Abandon, désespoir. Est-il besoin de nous redire que la motivation du départ des migrants, comme le couple Élimélec, Noémie et leurs enfants, n'est pas vraiment une histoire de touriste et une envie soudaine d'exotisme. Les raisons qui poussent au départ des milliers de nos frères et sœurs en humanité sur les routes, et par-delà les mers aujourd'hui, n'est pas un mieux vivre, mais un vivre tout simplement, et de façon essentielle. Ces familles dont nous entendons parler, que nous voyons sur nos écrans, quittent l'enfer qu'est devenu leur pays pour survivre. Personne ne quitte sa terre de cette façon par plaisir. Leur préoccupation en partant n'est pas de savoir si un pays pourra les accueillir, mais s'ils vont réussir à sauver leur peau de l'enfer qu'ils côtoient. Notre famille israélite n'avait plus de quoi se nourrir à la maison du pain, traduction de Bethléem, leur ville d'origine. Alors, notre famille décide de tout quitter pour ne pas mourir de faim et rejoint un pays étranger, le pays de Moab, qui se trouve au sud-est de la mer Morte. Bethléem est dans la province de Juda, se situant à son nord-ouest. Après 10 années que l'on peut imaginer à peu près paisibles, malgré la mort du père, la mort des deux fils, eh bien maintenant, ces décès successifs conduisent la famille à prendre une décision des plus douloureuses. En effet, privée de son mari, une veuve n'est pas grand-chose dans cette culture, de plus à l'étranger. Décision est alors prise de rentrer au pays pour trouver un peu de soutien. Pays où, nous dit le texte, où en plus le pain serait revenu. Mais à quel prix ? Noémie semble prête pourtant à affronter le regard des siens, rentrée après un échec total, sans mari ni fils, sans bien et sans descendance. Et c'est maintenant en sens inverse, vers le nord, pays de Juda, que Noémie va faire la route. Et vous l'avez entendu, elle n'est pas seule. Sa belle-fille, Ruth, la Moabite, l'accompagne. C'est elle qui sera désormais l'étrangère au pays de son défunt mari et de sa belle-mère. Qu'est-ce qui a bien pu passer dans la tête de Ruth pour décider de s'exiler avec sa belle-mère ? C'est insensé. On dit souvent que les relations belle-mère-belle-fille ne sont pas aisées. Mais alors là, ces deux font mentir tous les pronostics. Pourquoi Ruth décide-t-elle de tout quitter, son pays, sa famille, sa culture, ses dieux, pour suivre une vieille femme sans avenir ? Le texte ne répond pas à la question. Il mentionne seulement que Ruth est attachée à sa belle-mère. Peut-être que pour Ruth, rester serait pire que partir. Que quitter était pour elle un moyen de vivre hors des murs de sa famille. Qu'elle sentait cet appel à s'ouvrir, ouvrir ses portes, ouvrir son cœur pour rencontrer l'étranger. Rester aurait certes été un choix plus raisonnable, mais chacun sait qu'en matière d'appel et de foi, c'est le cœur qui parle. Elle choisit de croire que malgré tout, un avenir est possible, pour elle et pour sa belle-mère, dans cet ailleurs qu'elle ne connaît pas. Nous voilà donc avec notre binôme à Bethléem et la récolte commence. Nous lisons le début du 2e chapitre.
Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme puissant et riche du clan d'Élimélec, qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie : Laisse-moi, je te prie, aller au champ pour glaner des épis derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui dit : Va, ma fille. Elle partit et s'en vint glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était du clan d'Élimélec. Or, Boaz arriva de Bethléem, il dit au moissonneur : Que le Seigneur soit avec vous. Ils lui répondirent : Que le Seigneur te bénisse. Boaz dit au serviteur chargé de surveiller les moissonneurs : À qui appartient cette jeune femme ? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit : C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie du pays de Moab. Elle a dit, « Laisse-moi, je te prie, glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Depuis qu'elle est venue ce matin et jusqu'à présent, elle est restée debout. Elle ne s'est assise que peu de temps dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas non plus d'ici. Attache-toi à mes servantes. Tu auras les yeux sur le champ que l'on moissonne et tu iras derrière elle. J'ai interdit aux serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle se prosterna face contre terre. Elle lui dit, « Comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi alors que je suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as abandonné ton père, ta mère et le pays de tes origines pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas. Que le Seigneur te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit complète de la part du Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu chercher un abri. » Elle dit, « Que je trouve toujours grâce à tes yeux, mon maître. Tu m'as consolée, moi ta servante. Tu as parlé à mon cœur, alors que je ne suis pas même comme l'une de tes servantes. »
C'est le moins que l'on puisse dire, Ruth est audacieuse, maligne et plein d'initiative. Notre étrangère au pays de Juda, dans ce pays et cette culture qu'elle ne connaît pas, va au champ et exerce son droit de glanage. La loi de Moïse, respectueuse de l'immigré, la veuve et l'orphelin, et pour protéger les plus faibles, autorise le glanage, c'est-à-dire ramasser quelques épis lors de la moisson. Ruth, la Moabite, ainsi appelée dans presque tout le livre pour bien manifester sa différence, est une femme, elle est étrangère, elle est veuve, elle est pauvre. Elle en bénéficie donc à plusieurs titres. Sûrement des mauvais esprits ont dû critiquer celle qui, non contente d'être invitée en pays étranger, se permet encore de travailler aux côtés des honnêtes ouvriers judéens. Ne serait-elle en plus qu'une profiteuse venue manger le pain des autres ? Mais enfin oui, le pays de Juda ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais sûrement doit-il en prendre sa part. Le peuple d'Israël est-il donc accueillant envers l'étranger ? Nous trouvons dans certains livres de la Bible, Deutéronome, Lévitique, des lois pour protéger les étrangers et les accueillir. Car, dit Dieu, vous étiez des étrangers au pays d'Égypte. Mais il existe aussi dans d'autres livres de la Bible, comme Esdras et Néhémie, des passages où il est interdit d'accueillir les étrangers dans le peuple de Dieu et de s'unir à eux. Après, tout dépend des étrangers. Certains sont tolérables, d'autres moins. Et justement, les Moabites en particulier ont très mauvaise presse. Descendant de l'inceste d'une des filles de Lot avec son père, histoire racontée dans Genèse, ils sont présentés comme des ennemis, certaines fois dont on se moque, d'autres contre lesquels on se bat ou encore que l'on massacre. Et pourtant, c'est chez ce peuple où une famille de Juda va trouver refuge à cause de la famine. Et c'est de chez ce peuple dont vient Ruth, l'étrangère, qui va ouvrir un nouvel avenir pour cette famille de Juda. Alors voilà Boaz, riche propriétaire terrien, intrigué par la présence d'une jeune femme dans son champ. Pas de reproche, pas d'exclusion, mais au contraire de l'admiration. On peut se demander si l'entreprise de Boaz envers Ruth est complètement désintéressée. Était-elle si belle qu'elle puisse attirer les faveurs d'un homme riche, malgré sa situation d'exclu? Le texte ne dit rien de cela. Nous lisons que Boaz est touché par cette femme qui a tout laissé derrière elle pour un avenir dont elle ne connaissait rien, aux côtés de sa belle-mère. Le dialogue entre Boaz et Ruth est très touchant. Est-ce que ces paroles que Marie a partagées ne vous rappellent pas d'autres paroles bibliques? Boaz lui dit « Tu as quitté ton père, ta mère et ton pays pour venir vivre au milieu d'un peuple que tu ne connaissais pas. » Genèse 12, verset 1. « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple. » dit Dieu à Abraham. Ruth répond à Boaz, « Maître, tu es vraiment très bon. Tu m'encourages en me parlant avec bonté, et je ne suis même pas comme l'une de tes servantes. » Évangile de Luc, 1er chapitre, verset 38. « Je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. » dit Marie à l'ange. Ruth. Ruth, la Moabite, oui, mais aussi la digne héritière d'Abraham, le premier migrant, le père des nations. Et cette même Ruth, l'étrangère, dans ses paroles de reconnaissance et de service, peut déjà annoncer la venue du Sauveur, qui n'aura jamais de lieu où poser sa tête. Un Jésus migrant, sans cesse sur les routes, jamais arrêté, toujours en marche. Ruth, aux côtés de Boaz, nous invite au grand écart de la foi entre Abraham et Jésus-Christ. La foi comme pari fou d'un avenir incertain. La foi comme lumière perçant dans l'obscurité. Ruth, femme de foi, témoin du toujours possible. Et la foi non pas comme une lignée de sang, comme une hérédité familiale, mais comme une lignée d'audace, de confiance et d'espérance. Croire encore quand il semble n'y avoir plus rien à vivre. En accueillant Ruth de cette manière, Boaz l'intègre dans le peuple de Dieu. Il lui donne une identité, elle n'est plus une exclue. Et Ruth est surprise, elle n'en attendait pas tant. Elle raconte alors tout à sa belle-mère, qui lui confie sa petite idée pour la suite. Début du chapitre 3.
Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oint-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de germes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. »
Alors ça, c'est le pompon. Serait-on déçu maintenant par tant d'impudeur et de convoitise ? N'y a-t-il donc que tromperies et petits arrangements pour arriver à ses fins dans cette histoire ? Oh, ça avait si bien commencé. Cette histoire, par grâce, venait de nous ravir. En viendrait-elle maintenant à nous dégoûter définitivement de la bonté humaine toute désintéressée ? Laissons nos esprits chagrins de côté et regardons le texte. Notre texte ne juge pas, il raconte. Alors laissons-le nous conduire. Il ne s'agit pas ici de coups bas, mais de volonté de vivre et de désir, d'une foi à toute épreuve pour un avenir meilleur, d'une confiance inébranlable pour la vie, et encore la vie. C'est vrai, nous entendons ça et là parler des mariages blancs et des enfants à naître pour faire valoir des droits, pour avoir sa place. C'est sûr, il sera peut-être toujours difficilement pensable que l'être humain soit mis en route non pas par des calculs intéressés et mesquins, mais simplement par un désir profond de vivre. Une force donnée en lui et chuchotée en son cœur que la vie doit toujours vaincre. Et que pour cela, il faut parfois se battre contre le radicalisme, les frontières, les lois, les préjugés, le regard des autres. Oui, chers amis, notre Dieu n'est jamais le gardien des règles qui enferment. Il est celui de la porte qui s'ouvre pour laisser entrer le souffle. Notre Dieu est le Dieu de la vie. Choisis la vie, crie-t-il dans sa bienveillance et son exigence, chaque jour et pour chacun de nos pas. Dans ce troisième chapitre, c'est un couple amoureux qui nous est conté. Où Boaz considère Ruth comme une femme de valeur et demande à son Dieu de la bénir. Boaz devient alors le racheteur selon la coutume en Israël. Si un homme meurt ou est en difficulté et qu'il doit vendre sa terre, un parent proche doit racheter son héritage pour donner une nouvelle vie à la famille. Boaz achète le champ de Noémie et épouse Ruth, la Moabite. Encore une fois ici, nous sommes témoins de la force de vie toujours possible, malgré tout, la vie plus forte que la mort. Et nous lisons quelques derniers versets dans le chapitre 4.
Boaz prit Ruth et elle devint sa femme. Il alla avec elle. Le Seigneur donna à Ruth de concevoir et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Noémie : Béni soit le Seigneur qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans rédempteur. Que son nom soit proclamé en Israël. Il te fait revenir à la vie. Il pourvoira à tous tes besoins dans ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde. Elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein. C'est elle qui fut sa nourrice. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né de Noémie ». Elles l'appelèrent du nom Obed. C'est le père de Jessé, père de David.
Vous l'entendez, la famille d'Élimélec revit grâce à Ruth l'étrangère. Par sa foi, qui, elle, a cru que tout était possible, un fils est donné à cette famille décimée. Et ce qui est très surprenant dans cette histoire est qu'à cette époque du peuple d'Israël, de retour de son exil à Babylone, les mariages avec les étrangères étaient interdits, afin de préserver l'identité nationale et le culte du Dieu unique. Mais ici, malgré tout, l'histoire du peuple d'Israël continue à s'écrire. Et vous l'avez entendu, ce n'est pas n'importe quelle histoire. Ruth est l'arrière-arrière-grand-mère de David, David, le grand roi d'Israël, ancêtre de Jésus-Christ. Ruth est même présente dans le récit de Noël, dans l'évangile de Matthieu, au premier chapitre. Ruth, la migrante, l'étrangère, lumière dans l'ombre, naissance dans la mort, audace dans le désespoir, et notre aïeul à tous, nous les chrétiens. Un peuple ne peut jamais se construire en restant fermé sur lui-même. Chacun de nous ne peut être sans l'apport des autres. À la source de notre moi, une part étrangère est là, toujours. Foi dans le doute, paix dans la tempête, joie dans la tristesse. Sachons la reconnaître, la louer et en vivre. Ouvrons nos yeux, décloisonnons nos cœurs. Vivons riches de ce qui nous bouscule, engagés par notre foi en celui qui n'a jamais eu de lieu où poser sa tête. Amen.